Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Bonjour
Frédéric. Aujourd'hui, dans la fabrique de l'histoire, la Chine communiste en débat.
Oui, la Chine communiste en débat, en particulier comment les historiens aujourd'hui voient l'objet Chine communiste ou l'objet Mao Tse-tung, si on peut parler comme ça, et en font un objet d'histoire. C'est le thème de notre débat de ce jeudi qui va donc clore cette semaine consacrée à l'histoire de la Chine communiste. Quatrième et dernier temps donc de notre semaine consacrée à l'histoire de la Chine communiste, à quelques semaines des JO de Pékin, et alors que dans la grille d'été, Thierry Garcin vous proposera sur France Culture tous les dimanches, depuis le 27 juillet jusqu'au 24 août, de 16h à 17h, une série sur la Chine et les mondes chinois, avec des reportages à Taïwan et Hong Kong, tous les dimanches donc de la grille d'été, de 16h à 17h, la Chine et les mondes chinois par Thierry Garcin. Dans le débat historiographique de ce jeudi, nous allons nous demander où en est la recherche historique sur la Chine communiste, et comment, depuis une dizaine d'années au moins, celle-ci a pu tirer parti de certaines ouvertures pour renouveler profondément ses analyses. Jusqu'où vont ces ouvertures? En quoi permettent-elles d'ailleurs de nuancer les analyses précédentes? C'est ce que nous verrons avec Marie-Claire Berger, professeure honoraire des universités, auteure d'un Sun Yat-sen chez Fayard et récemment de Capitalisme et capitaliste en Chine chez Perrin. Avec Michel Bonin, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Génération perdue aux éditions de l'EHESS, et d'un article récent sur l'histoire de la révolution culturelle dans le dernier numéro de la revue Perspective chinoise, publié à Hong Kong en français et en anglais. Et on mettra évidemment toutes les références sur notre site. Et Philippe Short également sera avec nous au téléphone. Il a longtemps été journaliste à la BBC et il est l'auteur d'une biographie chez Fayard de Mao Tse-tung. Dans la Chine antique, il y avait une fable intitulée « Comment Yukong déplaça les montagnes ». On y raconte qu'il était une fois, en Chine septentrionale, un vieillard appelé Yukong des montagnes du Nord. Sa maison donnait, au sud, sur deux grandes montagnes, le Taihang et le Wangwu, qui en barraient les abords. Yukong décida d'enlever, avec l'aide de ses fils, ces deux montagnes à coups de pioche. Un autre vieillard, nommé Cheseu, les voyant à l'œuvre, éclata de rire et leur dit « Quelle sottise faites-vous là? Vous n'arriverez jamais, à vous seul, à enlever ces deux montagnes. » Yukong lui répondit « Quand je mourrai, il y aura mes fils. Quand ils mourront à leur tour, il y aura les petits-enfants. Ainsi, les générations se succéderont sans fin. Si hautes que soient ces montagnes, elles ne pourront plus grandir. À chaque coup de pioche, elles diminueront d'autant. Pourquoi donc ne parviendrions-nous pas à les aplanir ?» Après avoir réfuté les vues erronées de Cheseu, Yukong, inébranlable, continua de piocher jour après jour. Cela émut le ciel, qui envoya sur terre deux anges emporter ces montagnes sur leur dos. Aujourd'hui, il y a également deux grosses montagnes qui pèsent lourdement sur le peuple chinois. L'une est l'impérialisme, l'autre le féodalisme. Le Parti communiste chinois a décidé depuis longtemps de les enlever. Nous devons persévérer dans notre tâche et y travailler sans relâche. Nous aussi, nous arriverons à émouvoir le ciel. Notre ciel à nous n'est autre que la masse du peuple chinois. Si elle se lève tout entière pour enlever avec nous ces deux montagnes, comment ne pourrions-nous pas les aplanir ? Tiré d'un des discours célèbres de Mao Tse-tung, « Comment Yukong déplaça les montagnes », un discours de 1945, un discours qui était fortement connu dans les années 60 et 70 de tous ceux qui s'intéressaient à la Chine ou de tous ceux qui ne s'intéressant pas, comme vous, de façon, pour votre travail, Marie-Claire Berger, bonjour, à la Chine, s'y intéressaient politiquement, en tous les cas, puisque c'était évidemment une des grandes références de la pensée Mao Tse-tung. Alors, ce texte-là est intéressant parce qu'il montre la subtilité, enfin, il tente de montrer la subtilité du président Mao, à la fois celui qui, à un moment donné, a décidé de faire table rase d'un certain passé, mais qui, dans ses discours, s'est usé de métaphores qui parlent donc du passé, de ce même passé qu'il va ensuite décider d'éradiquer, Marie-Claire Berger.
Oui, sous la forme d'une fable, il reprend des idées qui ont été défendues par le parti. Et en fait, il reprend l'interprétation officielle de l'histoire ancienne de la Chine, l'interprétation qui avait été arrêtée par le comité central en 1945 et qui résumait l'histoire ancienne de la Chine à deux traits, le féodalisme et
l'impérialisme.
Donc
le féodalisme, cette vieille Chine dont on veut se débarrasser, et l'impérialisme, ce qui a succédé à cette vieille Chine, ou ce qui a en même temps existé en Chine, à savoir l'arrivée
des Occidentaux,
à partir de la moitié du 19e siècle.
Et la tâche du Parti communiste était de lutter contre l'un et l'autre.
C'est un texte, je disais, très connu, Michel Bonin, qui a servi de référence à beaucoup de militants maoïstes sur la volonté politique. Quand on le relit aujourd'hui, c'est un document d'histoire, ce texte-là, maintenant, c'est-à-dire qu'on peut le regarder froidement, contrairement à ceux qui, engagés dans le maoïsme dans les années 60 et 70, y voyaient un document d'actualité presque.
Oui, je crois que maintenant, évidemment, on a un recul par rapport à l'utopisme de Mao, c'est clair. Hein. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre ce qui peut être écrit aujourd'hui et puis ce qui était écrit à l'époque. À l'époque, il y avait des gens qui avaient un certain recul idéologique par rapport à tout cela. Je pense, il y a eu un certain nombre, en France peut-être, Lucien Bianco avait déjà écrit dès 1970 des choses un peu très distanciées par rapport à Mao.
Sur les origines de la révolution.
Voilà. Mais c'est vrai que à l'époque, dans ma génération à moi, qui est celle de Marie-Claire Bergère et de Lucien Bianco dans la sinologie, pour nous c'était évidemment quelque chose de très stimulant. Même si, comme moi, on n'était pas maoïste, malgré tout, on était quand même fasciné par cette volonté de faire entrer un idéal dans la réalité par la volonté humaine.
Oui, de toute façon, Marie-Claire Bergère, vous deviez vous opposer à cette époque-là, vous opposer ou accompagner en tout cas le discours qui disait on ne veut pas de discours savant sur la Chine. C'était le fameux discours des retours de Chine au milieu des années 70. Il ne faut pas de discours savant sur la Chine, il ne faut pas épouser le byzantinisme des sinologues, il faut au contraire raconter la Chine d'après la révolution culturelle, comme on la voit, comme en se promenant comme ça, même si on était fortement guidé par les guides qui accompagnaient donc les voyageurs occidentaux, Marie-Claire Bergère.
Oui, c'est la négation complète de l'histoire. On voit la Chine comme on veut la voir. La Chine est une espèce d'utopie, comme vous le disiez. Et l'histoire, les historiens sont des gens inutiles qui compliquent la situation. Du passé, faisons table rase. Et on construit sur cette table rase, on construit sur une page blanche où tout est possible parce qu'il n'y a pas d'antécédent.
Oui, ça devait être difficile quand même de faire un travail d'historien dans un contexte qui niait justement cette importance de l'histoire et de l'analyse du passé.
Quand on était à l'étranger, ce n'était pas trop difficile parce qu'on pouvait travailler sur le peu de documents que nous avions. En Chine, c'était pratiquement impossible.
Philippe Short, bonjour, vous êtes au téléphone avec nous depuis votre résidence française. Vous êtes, je l'ai dit, un ancien journaliste, en particulier correspondant dans beaucoup de capitales de la BBC, et vous avez beaucoup travaillé à Pékin, et vous êtes l'auteur d'une monumentale biographie de Mao Tse-Tung. Ce que viennent de dire à la fois Marie-Claire Bergère et Michel Bonin sur justement cette différence de traitement qu'il peut y avoir aujourd'hui sur cette histoire, que ce soit l'histoire de Mao ou l'histoire de la révolution chinoise, ça vous paraît évident, j'imagine, par rapport à ces périodes précédentes?
Bien sûr, on peut faire beaucoup plus maintenant. Il y a des sources, des archives, on peut parler aux gens. Mais fondamentalement, je pense que l'interprétation doit rester à peu près la même. Par exemple, vous venez de parler de Yukong, cette fable, mais ça montre que pour moi, la façon dont Mao savait parler un langage accessible aux gens simples, aux paysans chinois, il utilisait une langue imagée qu'il pouvait comprendre. Et c'était une de ses forces. Là aussi, vous avez utilisé le mot volonté assez souvent. Oui. Cette histoire, cette fable, si on l'interprète bien, c'est la volonté humaine qui était à la base de tout que Mao faisait après. non seulement la guerre civile, mais le grand bond en avant, c'était une exaltation de la volonté humaine. La révolution culturelle, c'était aussi la primauté de la volonté humaine. Mao, il est beaucoup plus accessible maintenant parce qu'on peut consulter les textes originaux, on a beaucoup plus un sens du contexte de ce qu'il faisait, mais quand même, c'est pas lui qui a changé.
Ça n'est pas lui qui a changé, vous dites, c'est ça?
Oui, c'est absolument, c'est une question de...
De regard sur lui.
De notre regard. L'utopisme s'est passé, heureusement. On peut avoir un regard beaucoup plus clair, mais les faits restent inchangés.
Vous pensez la même chose, Marie-Claire Berger? Les faits restent inchangés, c'est le regard qui change? Ou est-ce que vous pensez tout de même qu'on a apporté dans la connaissance historique de cette période, depuis le début du XXe siècle, mettons la naissance progressive du nationalisme chinois et puis ensuite la naissance du communisme en Chine, on a apporté des nouveaux documents qui permettent, comme on le fait souvent quand on pense par exemple à l'Union soviétique, de relativiser, de changer le regard.
Je crois qu'on a changé le regard et qu'on a, dans l'objectif était de réévaluer en quelque sorte l'action de Mao sans déboulonner le personnage. Donc la stratégie a été au fond assez habile. On n'a pas tellement changé le regard sur Mao lui-même, mais on a beaucoup diversifié. C'est-à-dire qu'avant, l'histoire du Parti communiste s'identifiait totalement à l'histoire de Mao. Il n'y avait pas d'autres acteurs. Les acteurs importants qui avaient agi à ses côtés étaient complètement relégués à l'arrière-plan.
Surtout ceux qui avaient été disqualifiés d'ailleurs par
Mao. Même les autres, ils jouaient le rôle de subordonnés, d'assistants tout au plus. Et à partir de 79, à partir de l'ouverture, on a eu une multiplication d'études sur les divers dirigeants, les divers acteurs, et on s'est aperçu que Mao n'était pas du tout le seul, que dans le Parti communiste chinois, il y avait une richesse de personnalités dès sa création en 1921 et par la suite. Donc du coup, le paysage s'est beaucoup diversifié, et la taille de Mao, forcément,
a diminué un petit peu. Oui, c'est d'ailleurs une des vertus de votre travail, Philippe Short, que d'avoir pris en compte justement cette multiplicité d'acteurs, en particulier au tout début et à la naissance du communisme chinois.
Absolument, parce que pendant la première période, Mao n'était pas du tout le grand dieu. Il luttait plusieurs fois en disgrâce. Il était l'un parmi les autres, et en fin de compte, fin des années 30, il s'est affirmé comme le numéro un, avec l'aide d'ailleurs d'un certain Joseph Staline à Moscou. Oui. Donc on est conscient pour la période, la première période de sa vie. Mais même maintenant, c'est absolument vrai, il y a beaucoup de choses publiées en Chine sur... et à l'extérieur sur ce qui accompagnait Mao, mais il y a des zones qui restent difficiles. Les Chinois n'acceptent toujours pas, les autorités chinoises n'acceptent toujours pas qu'on touche à l'image de Zhou Enlai, du premier ministre de Mao. Et il y a donc de leur côté, pour les documents, pour les archives, des contraintes qui deviennent, à mon sens, de plus en plus lourdes.
Vous voulez dire que c'est plus difficile de travailler aujourd'hui sur Zhou Enlai que de travailler sur Mao Tse-tung? C'est ce que vous sous-entendez, Philippe Short?
Même chose pour Deng Xiaoping.
Surtout
pour la période récente de Deng Xiaoping, on ne peut pas le toucher, parce que ça porte ombre sur les dirigeants chinois actuels. Et d'une façon plus générale, je dirais que c'est plus difficile de travailler en Chine sur les documents maintenant qu'il y a 20 ans. Il y a un resserrement du régime pour essayer de garder une passé qui est propre, qui a été reformulé, reformaté, on peut dire. Oui. selon leurs propres objectifs, leurs propres intérêts.
Oui, c'est-à-dire une façon téléologique, comme on dit en histoire, donc qui regarde l'histoire par la fin, qui voudrait justement remettre en ligne toute l'histoire de cette Chine communiste en fonction de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est ce qui vous arrive, Michel Bonin. Je rappelle que vous êtes auteur de Génération perdue et qui revient sur le mouvement qu'on a appelé le mouvement des jeunes instruits, l'envoi des jeunes instruits donc à la campagne dans la foulée de la révolution culturelle et jusqu'au début des années 80 avec leur retour dans les villes, un retour qui a été d'ailleurs assez problématique pour beaucoup d'entre eux. Vous avez écrit un article dans Perspective chinoise, donc cette revue dont c'est le dernier numéro qui fait un point sur la Chine et son passé. J'imagine qu'on discute de ça, ces difficultés, moins d'ouverture, plus d'ouverture qu'il y avait auparavant, comme le dit Philippe Short.
Oui, dans mon article là, je dis que par exemple pour la révolution culturelle, on a pu en 1996 faire quelques petites réunions, conférences, débats en Chine sur la révolution culturelle. Et en 2006, pour le 40e anniversaire, donc tout récemment, ça a été totalement impossible, totalement impossible. Il y a eu une petite conférence uniquement clandestine qui a été faite par un petit groupe d'intellectuels. Et autrement, c'était tout à fait interdit. Donc il y a...
C'est la particularité de cette histoire où, en fait, on a un parti communiste aujourd'hui héritier de toute cette histoire et donc on ne peut pas mettre en cause... Si le communisme avait disparu de Chine, peut-être ça serait plus simple, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Hein, et ça, je pense que c'est, moi j'insiste depuis un certain temps là-dessus, je me bats contre tous ceux qui disent le communisme est mort. Non, le communisme n'est pas mort en Chine, en tout cas pas le Parti communiste. Et le Parti communiste a besoin pour sa légitimité politique d'une bonne image de Mao. Hein, et évidemment aussi de Zhou Enlai, Deng Xiaoping, etc. Donc il y a des tabous.
Marie-Claire Berger.
Oui, c'est le paradoxe. Le régime a changé malgré tout et en même temps, il ne peut pas répudier ses racines parce que sa légitimité maintenant se fonde sur l'économie, se fonde sur le nationalisme. Mais malgré tout, il est l'héritier du régime et donc il a fallu qu'il le répudie sans le répudier. C'était un exercice extrêmement compliqué. Les victimes de la...
Et vous qui avez longtemps travaillé depuis un certain temps sur cette histoire de la Chine communiste, comment ça s'est passé? Vous avez vu ce dont parlait tout à l'heure Philippe Short, des ouvertures, puis des clôtures, des portes qui s'ouvraient et qui se refermaient ensuite, la possibilité de mettre le pied dans la porte. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça, après 79, au milieu des années 80, au début des années 90, qui étaient des sortes de moments de nuances possibles, d'approches différentes de la question du communisme en Chine?
Oui, et par bond, par étape, on voit quand même une ouverture lente, mais progressive. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la période 1949-56. Et cette période, le début du régime, cette période était tabou, comme tout le reste. Et maintenant, j'assistais à un congrès de l'Association des jeunes historiens en Chine, à Wuhan, ça existe. Et ces jeunes historiens sont en train de travailler sur la période 51-52-53. Cette période entre doucement... Dans l'histoire, elle est moins brûlante, c'est sûr, que celle de la révolution culturelle. Mais enfin, jusqu'ici, il n'était pas possible officiellement d'écrire dessus. Maintenant, c'est possible.
Oui, d'ailleurs, vous avez tous participé, Philippe Short, à un colloque, une série de journées, un colloque international qui s'appelait Mao, objet historique. C'était donc à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'INALCO l'année dernière. C'était donc exactement à la même période. C'était en juin de l'année dernière. Il y avait des chercheurs chinois avec vous, donc ça veut dire qu'il y a tout de même la possibilité de faire de Mao un objet d'histoire tout de même.
Oui, mais avec des limites quand même.
Je voyais qu'en même temps que je vous posais la question, Michel Bonin et Marie-Claire Berger levaient un peu les yeux au ciel. Ils y étaient aussi à ces journées d'études et ils ont l'air de dire que ça n'était pas si simple que ça. Oui.
Non, les historiens chinois peuvent assister à des telles conférences. Est-ce qu'ils peuvent vraiment dire ce qui est sur leur cœur? En général, je dirais absolument non. Et d'ailleurs, c'était il y a 3-4 ans, à Harvard, il y avait une colloque similaire, avec quelques-uns des mêmes gens d'ailleurs, qui sont venus de la Chine. Et un diplomate chinois qui était là pour surveiller, il disait absolument rien qui n'était la plus pure orthodoxie. Et c'est généralement le cas.
Oui, vous êtes d'accord, Michel Bonin?
Ah oui, bah là, on l'a vu dans cette journée, c'était assez. On a eu vraiment un panégyrique
la figure de
Mao par un historien qui, en fait, était quelqu'un qui a travaillé avec Mao quand il était jeune. Et on sentait bien que pour lui, sa vie était restée à ce moment-là où il avait travaillé comme jeune bibliothécaire auprès de Mao. Et voilà. Donc, en revanche, il y a des historiens qui ont des choses un peu plus, disons, un peu moins orthodoxes à dire, mais c'est vraiment, ils ont beaucoup de mal à s'exprimer.
Marie-Claire Berger.
Laissez-moi simplement ajouter que avec des gens du Serail qui ont été avec Mao, si on est avec eux seuls, à deux, ils peuvent vous dire des choses intéressantes, ils peuvent avoir des vues qui ne sont pas du tout orthodoxes. Mais dans une réunion publique, c'est impossible. Les contraintes sont trop fortes pour qu'ils puissent dire quoi que ce soit.
Oui, Marie-Claire Berger.
Il me semble quand même qu'il y a une distinction à faire entre cette vision officielle, cette historiographie officielle qui est fixée dans ces interprétations par la résolution qui a été prise en 1981 sur l'interprétation qui disait Mao, on l'a sauvé, Mao, 70% de bons, 30% de mauvais. Et on a critiquer la révolution culturelle en attribuant cette révolution culturelle et ses excès à des erreurs de Mao, oui, et à des crimes des gens qui étaient autour de lui, c'est-à-dire la bande des quatre et l'Imbia. Donc ça, c'est la version officielle.
Et ça, on en sort pas.
On s'en échappe très peu, oui, officiellement. Oui. Mais à l'extérieur, je veux dire, il y a toujours eu en Chine une double tradition, oui, d'historiographie, officielle et non officielle. Et dans les publications non officielles, on trouve beaucoup de nouveaux faits.
Oui. Mais ces nouveautés, on les trouve finalement publiées hors de Chine, à Hong Kong,
à Taïwan,
aux États-Unis, voilà.
L'éclat du président Mao, donc un titre évidemment remontant à la période où on ne critiquait pas du tout le président Mao. Alors pour commencer peut-être et pour préciser ce que nous disions avec vous trois, donc Philippe Short, Marie-Claire Bergère et Michel Bonin, et pour prendre des exemples précis, travaillons sur des périodes sur lesquelles vous avez travaillé, qui peuvent être des périodes soit de crise, soit d'interprétation multiple justement du travail du Parti communiste et en particulier de Mao. Si on prend votre exemple, Philippe Short, avec tout ce que vous racontez, tout ce que vous dites des difficultés de Mao, par exemple, au début, pour pouvoir s'imposer au milieu de ce parti communiste naissant, et même d'ailleurs sur ce qui a précédé le communisme de Mao, à savoir ses hésitations vers l'anarchisme, tout ce qui l'intéressait plutôt chez Kropotkine que chez Lénine, qu'il ne connaissait pas au début des années 20. Tout cela, ce sont des apports récents de l'historiographie, c'est-à-dire est-ce que tout ce que vous racontez dans votre livre, c'est quelque chose de relativement neuf, donc votre biographie de Mao, relativement neuf, et permet de multiplier la complexité à la fois de Mao et du contexte qui accompagnait son action au tout début des années 20, par exemple.
Oui, je dirais pas simplement relativement neuf. C'est neuf dans le sens que depuis 78-80, c'est-à-dire 3-4 ans après la mort de Mao, il y avait vraiment une c'était comme on avait ouvert une digue pour les historiens chinois et des recherches de tout genre sur des sujets qui étaient auparavant interdits. Donc les textes chinois par les chercheurs chinois commençaient à sortir sur tous les aspects de la vie de Mao. Et la particularité, si vous voulez, de ce que j'ai pu faire,
c'est de profiter de cette ouverture, de miner, de puiser
dans ces travaux-là, qui étaient souvent extrêmement bien faits, et dans les petites publications, des publications à petit nombre, on trouvait des documents qui étaient absolument inédits.
Alors justement, vous insistez beaucoup sur ces conflits à l'intérieur du Parti communiste, sur ces différentes lignes, le rapport au Comintern, le rapport aux nationalistes, au Kuomintang, et puis vous insistez beaucoup sur les conflits également avec Chou Enlai, la façon dont Chou Enlai, à un moment ou à un autre, réussit à, non pas à sauver sa peau, mais disons à se remettre dans le jeu alors qu'il aurait pu être carrément écarté à ce moment-là, donc au tout début du Parti communiste chinois. Vous insistez beaucoup sur ce foisonnement, ce bouillonnement, et ce que disait Marie-Claire Bergère sur la multiplicité des acteurs qui ont disparu ensuite parce qu'on a privilégié la personnalité du président Mao.
Dont on avait presque totalement oublié les noms. Que si Mao est devenu communiste, c'est à travers un autre jeune homme comme lui, qui s'appelle Tsai Hsien, qui était convaincu avant Mao, à un moment quand Mao était plutôt anarchiste, et qui a fait comprendre à Mao que la seule possibilité, la seule vraie idéologie qui pouvait être appliquée à la Chine, c'était le marxisme.
Alors que lui était plutôt anarchiste.
Il était anarchiste, et d'ailleurs on retrouve ça à travers sa vie. La révolution culturelle, ça avait une coloration extrêmement anarchique, donc il n'a jamais totalement perdu. Et je pense que c'est aussi l'une des particularités de Mao, c'est que il sa pensée grandissait par accrétion, niveau sur niveau, mais presque jamais il rejetait totalement les couches antérieures de sa pensée.
Oui, et comme dans une des plaques tectoniques ou des mouvements terrestres, eh bien, il y avait des résurgences comme ça de plaques anciennes qui remontaient à la surface, c'est cela ?
Absolument, et je pense que la révolution culturelle a beaucoup plus en commun avec sa jeunesse qu'on ne le pense, qu'on ne le dit couramment, parce que c'est difficile à soutenir que la révolution culturelle était un mouvement orthodoxe marxiste-léniniste. Ouais. Ce n'était pas du tout. Mais ça avait beaucoup de liens avec, pour moi, le confucianisme et l'idée, l'importance de l'idée du vertu. Le vertu rouge dans la révolution culturelle plutôt que la vertu confucienne. Ouais. Mais les racines étaient là. Donc, quand il était jeune homme, il n'était pas dans sa carrière de marxiste-léniniste plus tard.
Oui, vous êtes d'accord avec cette interprétation, vous qui avez travaillé justement sur la suite, enfin les conséquences, pourrait-on dire, sur les jeunes instruits, donc ces gens qu'on envoie à la campagne depuis les villes, Michel Bonin, vous êtes d'accord avec cette interprétation et en particulier sur, alors qu'on a toujours pensé que dans les discours, en tous les cas, c'était l'éradication du confucianisme, la pensée du président Mao, qu'il peut y avoir comme ça des résurgences d'une pensée confucéenne, comme ça par sursaut ou par moment.
Je crois qu'on s'aperçoit de plus en plus de l'extrême complexité et des contradictions profondes de Mao lui-même. Hein, pour moi, c'est un empereur révolutionnaire, c'est une icône qui a créer son propre culte, mais qui est en même temps iconoclaste. On a l'impression, effectivement, comme le dit Philippe Schott, qu'il y a une suite de couches dans sa pensée et que les contradictions ne sont pas résolues. Et tout ça s'accumule et ça débouche sur des mesures politiques qui bouleversent la vie de centaines de millions de personnes et qui créent des désordres incroyables comme le grand bond en avant ou la révolution culturelle. Et dans tout ça, Mao, finalement, en plus, ne se remet jamais fondamentalement en question. Il refuse de se remettre en question, de reconnaître qu'il a eu tort. Et voilà. Et donc, dans une certaine mesure, il a...
Est-ce que vous dites pour la révolution culturelle, on se demande pourquoi il l'a voulu. Alors, on se pose la question, et c'est ce que vous vous posez comme question tout au long de votre travail Génération perdue, Michel Bonin. Et vous dites, mais il a tout de même défendu jusqu'à sa mort.
Exactement. Pour lui, c'était fondamental. Et comme dit Philippe Short, je crois qu'il s'agissait de faire revivre à toute une génération sa propre jeunesse.
Marie-Claire Berger.
Moi, il me semble qu'il y a un facteur...
Vous qui êtes aussi biographe, il faut le rappeler, de Sun Yat-sen, donc justement un personnage un peu oublié, ou du moins qu'on laisse dans l'ombre aujourd'hui, parce qu'on le connaît moins, en tout cas dans les historiographies occidentales, mais qui a plus que son importance, justement, dans la jeunesse de ce qui s'est passé dans la pensée de Mao, et pas seulement dans la pensée de Mao, mais dans tout ce qu'a été la Chine à partir de 1910-1911.
Oui, il me semble qu'une des raisons de la complexité et des contradictions de Mao, c'est sa longévité politique. C'est quelqu'un qui a dominé la vie du parti à partir de 1920 jusqu'en 1976. Ça correspond à Lénine plus Staline en continuité. Donc forcément, cette très très longue période de domination du parti est faite d'éléments très divers qui réapparaissent, qui ressurgissent, comme vous le décriviez ou comme le décrivait Philippe Short tout à l'heure. C'est inévitable, imaginez. 50 ans de domination, même plus de 50 ans, un demi-siècle de domination d'une Chine qui a quand même beaucoup changé. Mais lui est resté à la tête de la Chine pendant tout ce temps-là.
Oui, on a par exemple à redécouvrir la question nationale ou nationaliste chez Mao, le rapport aux nationalistes du Kuomintang, la façon dont il considère est-ce qu'il est internationaliste, est-ce qu'il est nationaliste, est-ce qu'il y a une volonté de chasser les étrangers ou pas, est-ce qu'il y a une volonté de tirer parti, c'est ce que raconte Philippe Short, des expériences étrangères, mais de les appliquer à la Chine. Tout cela rend le personnage effectivement assez fascinant, mais c'est un peu comme un puits sans fond, parce qu'on a l'impression que plus on creuse, moins on comprend, d'une certaine façon, Marie-Claire Berger.
Il était d'une part extrêmement opportuniste. C'était un excellent tacticien, et selon les situations, selon les périodes, interlocuteurs auxquels il s'adressait, il changeait radicalement de discours, de tactique.
Il n'avait pas peur de la contradiction.
Ah non, il n'était pas du tout dogmatique, j'ose dire, c'était pas un théoricien et il s'intéressait pas aux dogmes, il s'intéressait aux résultats. Donc il a très volontiers changé les dogmes. Il disait que les dogmes c'était rien du tout. Il disait que c'était de la merde dans son langage imagé. Donc je crois que c'est très difficile d'aborder Mao uniquement par ses textes et sans voir au niveau pratique quelle a été sa stratégie et sa tactique.
Et quel était le contexte donc qui faisait changer sa stratégie et sa tactique. Philippe Short, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marie-Claire Berger?
Oui, je pense c'est absolument vrai, il s'intéressait aux résultats, mais il s'intéressait aussi, c'était pas simplement ça, il s'intéressait vraiment beaucoup aux idées.
Oui, il tentait de se mettre en cohérence par rapport à lui-même, mais en même temps, il n'y parvenait peut-être pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il essayait de donner de la cohérence à une pensée qui était un peu complexe.
Extrêmement complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était fasciné par les idées et ça l'intéressait ce qui se passait dans la tête des autres. Mao s'intéressait à ce que pensaient les gens.
Ouais, mais tellement fasciné d'ailleurs qu'il a voulu changer la pensée des gens aussi, c'est ça?
Exactement. C'est pas qu'il acceptait qu'il pensait différemment à lui-même. Il voulait que tout le monde pensait sur le même registre, si vous voulez. Mais il voulait aussi que c'est là le côté tout à fait utopique, qu'ils y arrivaient par eux-mêmes. S'il devait dicter à tout le monde ce qu'il doit penser, c'était pas ça qu'il voulait. Il voulait qu'ils arrivaient eux-mêmes à avoir la même conception des choses. Donc les idées, pour moi, c'était vraiment très important. Pas comme Staline. Staline, c'était uniquement les résultats. Mais les idées étaient fondamentales.
Il s'auto-convainquait de l'importance de ses idées, justement, Michel Bonhomme.
Oui, mais je pense qu'il était aussi, c'était vraiment le leader charismatique typique, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il représentait la Chine, représentait le peuple chinois. Et il en était tellement persuadé qu'il ne comprenait pas le peuple puisse penser différemment de lui. Hein, et ça, c'était quelque chose qui était tout à fait insupportable. Mais je suis d'accord avec Philippe Short sur le fait qu'il accordait beaucoup d'importance aux idées, mais plutôt c'était un idéaliste même. Je veux dire, dans ce sens, il n'était pas marxiste. Il pensait que les idées allaient changer le monde et allaient changer la Chine. Hein, et en même temps, comme le disait Marie-Claire Berger, il était aussi en même temps extrêmement pragmatique. Il cherchait le résultat. Donc il y a cette contradiction entre un idéalisme et un volontarisme forcené et dans la pratique, une grande souplesse tactique. Et donc il y a sans cesse ces compromis qu'il fait avec la réalité, mais il revient toujours à son idée fondamentale.
Donc Marie-Claire Berger, passons par exemple à un autre exemple. On évoquait l'exemple donc de la naissance, de la vocation de Mao à partir du travail de Philippe Short. Vous venez de publier chez Perrin un très intéressant ouvrage qui s'intitule « Capitalisme au pluriel et capitaliste au pluriel en Chine », qui insiste beaucoup sur la très longue durée, justement, sur cette question du capitalisme, en vous posant la question, comme on peut le faire régulièrement, de qu'est-ce que le terme de capitalisme peut vouloir dire à la Chine ancienne, en Chine ancienne. Mais quand vous vous approchez du XXe siècle, là, on est plus proche de ce qu'a été justement l'expérience de Mao et de ceux qui étaient autour de lui. Vous pointer du doigt, là aussi, des nuances, des complexités qui méritent d'être mises en avant. Vous dites par exemple que la première révolution, la révolution donc de 1949, quand les communistes arrivent au pouvoir, n'est pas une révolution qui détruit immédiatement le capital et les capitalistes. Certes, ils sont partis. Et surtout, vous pointez du doigt le fait qu'ils sont partis un peu avant la révolution, et pas du fait des communistes, mais du fait des nationalistes qui... dans certains endroits comme Shanghai, par exemple, on cherchait à prendre la main avec une vision là aussi très anticapitaliste sur les grandes usines de Shanghai et qu'ils ont fait fuir les grands capitalistes qui sont partis immédiatement ou tout de suite ou bientôt à Hong Kong. Donc on voit que tout cela est plus complexe et que les premières années, par exemple, de pouvoir de Mao et des communistes en Chine ne sont pas des années où on les élimine tout de suite, on élimine tout de suite les capitalistes, il faudra un certain temps.
Oui, cette période, je trouve très intéressante pour au moins deux raisons. C'est d'une part que cette transition, comme vous dites, a été complexe, assez lente. Il n'y a pas eu rupture révolutionnaire. On n'a pas, en 49, liquidé les capitalismes.
Alors qu'on l'a fait pour l'agriculture.
Alors qu'on l'a fait pour les propriétaires terriens.
Voilà, la révolution agraire, c'est 50. Oui. Alors que pour ce qui est du capitalisme d'usine.
C'est beaucoup plus lent. Ça commence un peu avant parce qu'il y a eu conflit entre les capitalistes et le Kuomintang. Et ça se poursuit jusqu'en 1956. Donc c'est une période assez intéressante qui montre que le régime s'est accommodé, qu'il est souple. Quand il a besoin des capitalistes et des entrepreneurs, il les utilise. D'autre part, cette période est intéressante parce que dans l'histoire de la Chine la plus contemporaine, donc après 1980, lorsque la réforme est mise en route, elle va servir de référence. Elle est présentée comme une espèce d'âge d'or, une espèce d'âge où les communistes ont réussi à coopérer avec la société.
Parce que les historiens chinois ne parlent pas de nationalisation à propos justement de la prise en main publique des entreprises privées, mais parlent d'une lente transformation et puis ils évoquent plutôt, ils disent qu'il n'y a pas d'expropriation formelle, qu'on laisse encore les propriétaires, ceux qui veulent bien être présents, ils ont encore la possibilité de toucher un peu des dividendes même très faibles de leur propriété et que donc c'est l'émergence possible possible, justement, à partir des années 80, du capitalisme chinois tel qu'on le connaît aujourd'hui.
C'est cela, et d'une coopération, ça légitime, si vous voulez, les débuts de la coopération avec le secteur privé et les débuts de la renaissance du secteur privé. Donc, on l'a présenté comme un âge d'or. Les études qui ont été faites à ce moment-là, ou les références qui ont été faites, ont toujours été faites du point de vue du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a regardé comment, dans les années 49-56, on a mis en œuvre ce qu'on appelle la politique de front uni, c'est-à-dire d'ouverture et de coopération avec des forces extérieures au parti qui légitimaient la politique préconisée par Deng Xiaoping.
Les seuls qui étaient éliminés de la politique des fronts unis, c'était le Kuomintang, ceux qui avaient travaillé vraiment beaucoup, et puis les compradores qui avaient travaillé avec les étrangers. Ceux qui étaient éliminés. Mais sinon, on pouvait légitimement rentrer dans ce front uni et donc participer un peu à la gestion avec les communistes.
Voilà, c'est ce que disait la doxa communiste. Simplement, quand on... Alors, c'est encore comme ça qu'on présente l'histoire au colloque que vous évoquiez l'année dernière. L'historien chinois qui a présenté une étude sur cette période a uniquement présenté les textes officiels qui retraçaient les ouvertures plus ou moins grandes de la politique de front uni. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la même période, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout un âge d'or, qu'il y a eu des répressions très violentes, qu'il y a eu des mouvements populaires. Et tout cela, ça ne fait pas partie de l'histoire officielle. Mais peu à peu, les sources se multipliant, on arrive à reconstituer l'histoire de l'extérieur.
Michel Bonin.
Et sur cette période du début des années 50, disons au moins jusqu'à 57, jusqu'au mouvement anti-droitier, il y a aussi, on a de plus en plus d'informations sur la répression des intellectuels. Hein. Et là, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sont relativement tolérées, qui ne sont pas, officielles, mais qui sont tolérées par les autorités. Et il y a des livres qui sortent sur, la répression des amis de Hu Feng, qui était un intellectuel qui a été violemment critiqué par Mao. Et ensuite, le mouvement anti-droitier, donc, qui a été une sorte de cassure de toute l'intelligentsia chinoise.
À la fin des années
50. Et là, il y a des choses vraiment qui sortent. Parfois, par hasard, et il y a un livre qui est très intéressant, qui est sorti, qui est le dossier complet d'un ami de Hu Feng qui a été critiqué, qui a passé plus de 20 ans en prison, qui a été retrouvé sur un marché aux puces. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où tout se vend en Chine, y compris les dossiers politiques. C'est un journaliste que je connais du quotidien du Peuple qui a retrouvé sur un marché aux puces qui est très connu pour vendre, parce que maintenant on vend aussi toutes les vieilleries de l'époque maoïste sont vendues comme des antiquités, et tout se vend. Et ce monsieur avait récupéré un dossier complet. Je suppose qu'il s'agissait de faire le ménage un peu dans un bureau, et qu'au lieu de jeter, la personne a décidé de vendre les dossiers qu'il y avait, et il a retrouvé le dossier complet. On apprend énormément de choses grâce à ça.
Philippe Short, c'est là où on voit qu'il est toujours important de penser effectivement qu'en Chine, on lit l'histoire à partir d'aujourd'hui. Ce que dit Marie-Claire Bergère, c'est pour justifier ce qui s'est passé, les évolution des années 80, 90 et 2000, eh bien, il faut pouvoir trouver dans l'histoire du Parti communiste un moment qui puisse servir de référence, d'origine à ce qui est en train de se passer.
Oui, ça, on peut dire que ça a toujours été le cas. D'ailleurs, en Chine, les annales des dynasties étaient réécrites pour exactement la même raison. Mais ce que dit Michel Venin, c'est très intéressant. Il y a un autre cas. J'ai un ami, un chercheur suédois, qui travaille actuellement sur des dossiers de police de Shanghai au début des années 50, et vraiment des cartons qu'il a acheté au marché.
Là, vous faites friser l'œil de Marie-Claire Bergère, parce que Shanghai, début des années 50, c'est ce qui l'intéresse particulièrement. Oui, elle va se mettre en relation avec votre ami, elle va vous téléphoner après, j'imagine.
Non, mais c'est fascinant ce qu'on peut retrouver. Il y a des zones qui sont toujours fermées. Mais là où c'est pas fermé, c'est pas absolument prohibé, des choses sortent. Et de plus en plus, c'est le cas.
Je voulais aussi préciser que dans cette période, il commence à y avoir une ouverture de l'histoire officielle. Et on voit paraître des articles, pas encore des livres, mais des articles, par exemple, sur les chambres de commerce et l'attitude des chambres de commerce dans les années 50, 52, etc. Or, ces chambres de commerce étaient le lieu privilégié de la collaboration entre les cadres et les entrepreneurs. Donc, à partir du moment où on va chercher cette histoire dans les faits réels et plus seulement dans les textes du parti, ça commence à devenir très intéressant. Et je le souligne, c'est de l'histoire officielle.
Oui. Et puis, il y a autre chose, ce sont toutes les mémoires officielles des anciens dirigeants et cadres. Hein. Et alors, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que souvent, ces dirigeants sont obligés de publier leurs mémoires à Hong Kong. Parce qu'en Chine, c'est impubliable, dans la mesure où ils abordent des choses qui sont un peu délicates. Et ça, c'est... Donc, on a des gens, les mémoires d'un certain nombre de personnes. Et bon, dans le cas que ce qui m'a intéressé, donc le mouvement d'envoi des jeunes à la campagne, il y a maintenant deux livres qui ont été écrits par des anciens dirigeants du bureau d'envoi des jeunes à la campagne. Et donc, on apprend énormément de choses grâce à ça. Alors, évidemment, il y a une censure, il y a une auto-censure et même une censure qui a été exercée sur ces mémoires. Mais il n'empêche qu'on apprend quand même beaucoup de choses sur la façon dont pratiquement les mesures étaient appliquées. Et c'est là où, moi, je trouve ça... Ça m'a beaucoup apporté, parce que on avait avant toute la partie uniquement idéologique, hein, ce qu'on trouvait dans les journaux, dans les textes de Mao, les quelques phrases, les grandes directives de Mao. Et puis, on avait des interviews que j'ai faites de gens qui ont vécu ça et qu'on interviewait. Et puis, entre les deux, on n'avait rien. Hein. Et là, maintenant, on a entre les deux des mémoires de gens qui ont appliqué ces mesures et qui montrent comment ils ont... Il y a des choses absolument... Et en plus, avec leur mentalité de bureaucrate, c'est très intéressant de voir qu'à un moment, à la fin, en 1968-69, il y avait dirigeants, deux cadres qui étaient les seuls qui avaient été épargnés par la révolution culturelle et qui géraient plusieurs millions de jeunes envoyés à la campagne. Ils étaient les deux seuls cadres, tous les autres ayant disparu. Donc on voit comment ça fonctionnait et comment ils essayaient malgré tout de mettre un peu d'ordre là-dedans, de rationalité bureaucratique. Tout ça, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose de nouveau. Ce qui manque aujourd'hui, c'est évidemment toujours les archives du comité central. Hein, ça nous manquera toujours pour comprendre. Là, on est... Je veux dire, quand on les aura, on fera un bond en avant. Mais pour l'instant...
C'est peut-être pas le terme qu'il faut employer. Si c'est aussi efficace que le grand bond en avant, ça ne marchera pas. Philippe Short, sur ces questions-là, on peut travailler sur les mémoires, on peut travailler sur les interviews, vous êtes journaliste de formation, on peut travailler sur l'histoire orale, comme on dit aujourd'hui, et sur les documents qu'on peut trouver partout ailleurs que dans les archives du Parti communiste.
Non, c'est fascinant ce qu'il dit, Michel. Il y a vraiment un éventail de gradations dans ce qui est interdit et comment et ce qui est autorisé. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de publier un livre en Chine que de faire quelque chose pour la télévision. Les restrictions pour les médias de masse, les journaux, la télévision surtout, sont beaucoup, beaucoup plus dur que pour les chercheurs qui publient des livres.
Ou des articles, comme l'expliquait Marie-Claire Berger. C'est-à-dire, c'est plus simple de publier un article, disons, allant à l'encontre de la vérité officielle que d'en faire un film. C'est ça, Philippe Short ?
Absolument. C'est mille fois vrai. Énorme.
Michel Bonnet.
Ouais, je crois que là, Philippe a raison de dire qu'il y a vraiment un spectre, c'est-à-dire que plus le média est de masse, moins il est libre. Hein. Et alors, plus on va vers des petites revues d'histoire qui sont lues par des vieux historiens, etc. Et là, on peut trouver des choses intéressantes, parce que c'est réservé à une certaine élite et ça ne risque pas de remettre en cause la légitimité du parti au niveau des masses.
Et sans compter qu'il y a toujours cette exception, et vous avez publié publiée donc dans perspective chinoise, donc à Hong Kong, cette revue. Donc il y a cette exception de Hong Kong qui permet de dire beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses qui sont en marge de l'historiographie officielle, mais qu'on peut lire aussi en Chine.
Oui, alors Hong Kong reste un endroit très intéressant parce que c'est un endroit qui est chinois, qui maintenant même fait partie de la Chine, mais qui en même temps est beaucoup plus libre. Alors évidemment, il y a toujours la douane. Hein, je veux dire, on ne peut pas facilement passer des choses achetées, enfin des ouvrages interdits et publiés à Hong Kong en Chine, mais c'est quand même possible.
Marie-Claire Berger.
Oui, Hong Kong joue le rôle un peu d'interface. Et là, je voulais aussi souligner le fait que là, nous avons axé la discussion, ce qui est légitime, sur les développements récents de l'historiographie chinoise en Chine. Mais les progrès de l'historiographie à l'étranger, la Chine, sont venus beaucoup plus tôt, ont eu une avance au moins d'une vingtaine d'années sur l'évolution en Chine pour des raisons qui étaient politiques, puisque les collègues chinois étaient freinés par l'existence de ces doctrines officielles. Ceci dit, comme le disait Michel Bonin, il y a eu de nombreux colloques, et nous avons eu des contacts avec eux très tôt, à partir des années 1980. On pouvait dire dans les colloques, et même avant, quand on allait en mission voir les gens, on pouvait leur dire les résultats des travaux à l'étranger, qui allaient tout à fait à l'encontre de leurs propres conclusions. Donc il y a eu une acclimatation progressive des méthodes de recherche et des conclusions qui étaient poursuivies à l'étranger, essentiellement donc aux États-Unis, au Japon,
Europe. Il ne faut pas surdéterminer l'école sinologique française. Vous n'êtes que quelques dizaines peut-être à travailler sur la Chine communiste contemporaine en France, mais évidemment il y a une énorme école historiographique, c'est celle des États-Unis, où là c'est plutôt quelques centaines de chercheurs, c'est ça?
Oui, je crois qu'on peut aller plus loin même. Et cette école américaine est d'autant plus importante, en nombre de chercheurs, nombre de centres de recherche. Le fait que les États-Unis soient une puissance pacifique a fait que les universités de la côte ouest ont joué un rôle de plus en plus important. Et ça, il faut vraiment le souligner, les Américains ont une politique d'accueil des chercheurs chinois extrêmement généreuse, sélective et bien financée. Si bien que maintenant, il y a énormément de chercheurs chinois très compétents qui travaillent aux États-Unis.
Ça n'est pas un peu dommage, justement, que chez nous, on n'ait pas beaucoup plus que les 5, 10, 20 chercheurs
crois que c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a, le fait que la France est moins riche. Et puis, il y a aussi, je dirais, une certaine inertie, pesanteur de la tradition sinologique française qui privilégie la Chine classique. Il y a une grande tradition de la sinologie classique française qui fait que les chercheurs se reproduisent.
Et que donc les chercheurs sur la Chine contemporaine
ont un certain mal à obtenir des postes. Oui.
Ceci dit, je pense qu'il faut peut-être replacer l'effort français dans un cadre européen. Il y a 40 ou 50 ans, l'école française, qui était minuscule, était pratiquement seule en Europe avec l'Angleterre. Et puis maintenant, là, il y a eu une montée en puissance des autres écoles, en particulier en Allemagne, où il y a énormément de recherches. Et peu à peu, ça arrive en Espagne, en Italie, à un moindre degré. Mais pris dans l'ensemble, l'école européenne constitue quand même un poids.
Merci Michel Bonin, merci Philippe Short d'avoir été avec nous au téléphone et merci Marie-Claire Berger. Je rappelle vos trois livres, donc Génération perdue, un livre tout à fait passionnant de l'école des hautes études, aux éditions de l'école des hautes études en sciences sociales, qui est issu de votre thèse, Michel Bonin, sur le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine, qui prouve justement qu'on peut s'intéresser avec beaucoup de précision à ces questions-là et que vous étiez un des pionniers de l'étude sur ces questions, justement de la suite de la révolution culturelle en Chine et de l'envoi des jeunes instruits dans les campagnes. Mao Tse-Tung, votre biographie, Philippe Short, c'est chez Fayard. Et Marie-Claire Berger, sa biographie de Sun Yat-sen, c'est chez Fayard également. Et Capitalisme et capitaliste en Chine, des origines à nos jours, c'est dans la collection Perrin, Asie. Donc, et il faut mentionner aussi le numéro de Perspective chinoise, numéro 4, 2007. La Chine et son passé, retour, réinvention, oubli, dans lequel il y a un article de vous, Michel Bonin, donc une revue qui est publiée à Hong Kong, dont on mettra les coordonnées sur notre site. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Mélanie Chalandon. Le site internet, justement, est tenu par Antoine Lachambe. Vous y trouverez des bibliographies complémentaires, mais aussi vous pourrez réécouter cette émission pendant un mois, la télécharger pendant une semaine. À la technique aujourd'hui, Pascal Dupont. À la réalisation, Charles Trou. un numéro de téléphone pour réagir, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 à la Maison de Radio France, ou encore sur le site internet www.franceculture.com. Un tout petit mot très bref, Marie-Claire Bergère, ce colloque, cette journée d'études de Mao Objets Historiques de l'année dernière, il va être publié un jour, on pourra en voir
Elle sera publiée partiellement dans la revue 20e siècle, qui est publiée par les Sciences Po.
Très bien, merci.